Radio de la Paix, la grande interview.
Ben Diakité.
Bonjour à tous et merci de suivre les programmes de Radio de la Paix. Vous êtes à l'espace La Grande Interview. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous recevons Monsieur Emmanuel Tani, le conseiller technique du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Avec lui, nous parlerons de la nouvelle politique sanitaire de la Côte d'Ivoire, avec en pointe l'inclusion des personnes handicapées dans l'accès aux services de santé. La grande interview, présentation Ben Diakité, réalisation Antoine Kouassi.
Radio de la Paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Bonjour Emmanuel Tani, la Côte d'Ivoire en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et l'ONG internationale Sight Savers a décidé de revisiter sa politique sanitaire en accordant un espace plus grand à l'accès des personnes handicapées dans les services de santé. Pourquoi la Côte d'Ivoire fait cette option?
Bien, la Côte d'Ivoire a cette option de pouvoir offrir des soins de santé à tous les habitants du pays. Et le rapport mondial de l'OMS de 2022 sur l'équité en santé pour les personnes handicapées nous dit qu'une personne sur six dans le monde est une personne handicapée. Lorsque nous rapportons cette situation à notre pays, nous voyons l'importance, le nombre élevé de personnes handicapées. Il est donc bon de pouvoir ne pas laisser pour compte ces individus, mais de tenir compte de leurs besoins et de les inclure dans notre système. Il faut rappeler que notre système offre déjà des soins à l'endroit de tous les Ivoiriens. Mais un effort supplémentaire est en train d'être envisagé. Et cet effort serait de pouvoir tenir compte des spécificités des besoins de ces personnes handicapées et de les utiliser, de les impliquer dans les soins qui leur sont adressés.
Alors, le mot équité est beaucoup utilisé quand on parle d'accès aux soins des personnes handicapés. Que devons-nous entendre par ce mot?
Le mot équité va avoir une différence avec le mot égalité, parce qu'aujourd'hui, nous offrons des soins de manière égale à tous ceux qui se présentent dans les structures sanitaires pour des besoins de soins. Mais nous sommes d'accord qu'une personne malentendante n'est pas dans les mêmes dispositions qu'une personne ordinaire et qu'il y a lieu d'en tenir compte. Qu'une personne à mobilité réduite n'est pas dans les mêmes besoins qu'une personne ordinaire. Et donc, il y a lieu d'en tenir compte et de pouvoir offrir à ces personnes-là quelque chose de plus relevé en tenant compte de leurs besoins et pouvoir leur permettre de pouvoir, eux aussi, trouver satisfaction dans notre système.
Alors, quels sont les problèmes spécifiques que rencontrent les personnes handicapées en matière d'inclusion dans la stratégie d'accès aux soins de santé?
Il faut noter que déjà, le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en tenant compte de certaines normes au niveau du pays, essaie tant bien que mal de pouvoir mettre à niveau tout le système. Et donc, vous êtes sans ignorer aujourd'hui l'avènement de plusieurs structures sanitaires avec des plateaux techniques de dernière génération. Nous en avons pour exemple le CHR d'Abouasso, le CHR d'Atsopé, celui de San Pedro et j'en passe. Plusieurs structures sanitaires qui naissent avec un plateau technique de dernière génération, comme j'ai eu à le dire tantôt. Pour y accéder, il faut des dispositions particulières pour des personnes handicapées. Et donc aujourd'hui, toutes ces structures-là se mettent aux normes des rampes. Les ascenseurs dans nos différentes structures sanitaires qui parlent. Nous-mêmes, nous avons des ascenseurs dans lesquels il y a des brailles. Mais cela n'est pas encore total dans notre dispositif. Il faudrait permettre à toute personne, handicapée ou pas, qui se présente, de pouvoir se retrouver. L'idéal serait qu'une personne aveugle qui va à l'hôpital puisse y aller seule, sans se faire accompagner, et bénéficier des soins au même titre qu'une personne non aveugle. Qu'une personne malentendante puisse aller seule dans une structure de santé, se faire prendre en charge et ne pas forcément être accompagnée. Qu'une personne dans un fauteuil roulant puisse aller seule à l'hôpital sans se faire accompagner. Et c'est quand on atteindrait ce niveau qu'on parlerait d'inclusion totale. Nous sommes sur le chemin, Nous n'y sommes pas totalement, mais nous y parviendrons.
Alors, cette inclusion, c'est votre ministère donc qui a le lead hein, dans ce processus-là. Concrètement, quel est le mode opératoire que vous utilisez pour mettre en place cette stratégie nationale? Ça passe par quoi?
Bien, il faut dire que le rapport mondial que j'ai cité tantôt, le rapport mondial de l'OMS sur l'équité en santé pour les personnes handicapées, nous a peint une situation mondiale. Quand nous ramenons à notre niveau, nous essayons de nous mettre à jour. Et par l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé et de l'ONG internationale SciSaver, ce rapport nous a été présenté. Et avec M. le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba, qui a pris ce sujet à bras le corps, il a donc mis en place un point focal pour pouvoir, avec les différentes parties prenantes, réfléchir sur la question. À partir de ce moment-là, nous avons eu à mettre en place une plateforme des parties prenantes, aussi large que possible, et nous avons été pour faire l'état des lieux aujourd'hui en matière d'équité en santé à l'endroit des personnes handicapées. De cet état de lieu, des recommandations sont sorties et ces recommandations nous demandent de mettre en place un plan d'action. Et donc, un plan d'action a été élaboré. Nous sommes en plein encore sur ce sujet et c'est ce qui nous réunit à travers ce dernier atelier que nous avons à Bassam. Et avec cet atelier et cette réflexion, nous allons sortir un plan. Et ce plan-là va nous permettre de savoir comment mobiliser des ressources pour pouvoir accompagner notre système afin de pouvoir véritablement être résilient et offrir à tous ces enfants, tous les enfants de Côte d'Ivoire, des soins de qualité et en quantité aussi suffisante.
Justement, vous le disiez, donc les différentes réflexions, ateliers qui ont eu lieu ont permis donc de faire l'état des lieux, mais surtout de proposer un plan d'action avec des objectifs clairs et des indicateurs précis pour pouvoir atteindre cet objectif initial qui est l'inclusion des personnes handicapées dans la politique de santé de la Côte d'Ivoire. Justement, sur cette question, on sait très bien, vous et moi, que les personnes handicapées font partie du groupe des personnes vulnérables, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens et de ressources pour faire face à leur prise en charge en matière de santé. Alors, ce gap-là, l'objectif est louable, mais qui va payer? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est des partenaires à l'extérieur? Ou bien ce sont les personnes handicapées? Comment ça va se passer? Parce que dans tous les cas, la santé n'a pas de prix, mais un coût.
Il faut dire qu'aujourd'hui, le système de santé est financé essentiellement par l'État de Côte d'Ivoire, qui fait de grands efforts pour pouvoir offrir à toute sa population ce qui est nécessaire pour les soins et pour la bonne santé, pour le bien-être total. Et aujourd'hui, le gouvernement a déployé la politique de la couverture maladie universelle pour permettre à toute la population, une fois enrôlée et à jour de ses cotisations de 1 000 francs par personne par mois, et avec cette cotisation, permettre à tous ceux qui sont à jour de pouvoir être pris en charge à hauteur de 70% pour les pathologies qui sont dans le panier de soins. Et donc l'État est très regardant sur cette question et donc invite toute la population et aussi les personnes handicapées de pouvoir s'enrôler afin de pouvoir bénéficier de ces prestations-là et de voir les coûts au niveau santé ne pas être excessifs par rapport à leur bourse. Et donc cette politique existe. Même, je dirais même que l'État fait encore un très grand effort à travers ceux qui vont se retrouver indigents et donc qui sont pris totalement en charge par l'État à travers le mécanisme RAM que nous offre la CNAM et la couverture maladie universelle.
Quand vous dites, monsieur le conseiller technique Emmanuel Tani, qu'il y a un groupe de catégories de personnes en situation difficile qui sont prises de façon totale et entière en charge par l'État. Ça veut dire quoi, concrètement?
Ça veut dire qu'un mécanisme existe où des personnes vulnérables, très vulnérables, qui ne sont pas à même de pouvoir se prendre en charge compte tenu de leur faible revenu mensuel ou annuel. Alors ces personnes-là, à travers un mécanisme, sont recensées et l'État les prend entièrement en charge au niveau de la CEMU. Et eux, ils appartiennent au régime d'assurance maladie, la RAM. Mais ce n'est pas au niveau du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle que cette catégorie est déterminée. C'est un travail qui est fait en amont. Au niveau du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, il est question de prendre en charge tous ceux qui se présentent dans les structures sanitaires pour des besoins de soins. Et donc, à la lecture des éléments que nous disposons, par exemple, ma carte CEMU et je suis à jour, alors je bénéficie des soins en tant qu'assuré CEMU. Et quand je bénéficie de ces soins-là, je suis pris en charge à hauteur de 70%. Je pense qu'à ce niveau, l'État a commencé à faire de grands efforts pour sa population.
Monsieur Emmanuel Tani, il y a aussi que à la fin donc de toutes ces consultations et recommandations qui est fait par le groupe de parties prenantes donc à la réflexion et aux propositions par rapport donc à la politique d'accès aux soins, à l'inclusion donc des personnes handicapées, va être élaboré un guide d'action que vous avez expliqué tantôt. Et ce guide d'action va donc faciliter les actions à mener, à poursuivre pour, j'allais dire, permettre que les personnes handicapées puissent bénéficier de l'équité en termes donc de soins. Justement, parlant de ce guide d'action, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans ce guide d'action? Comment on va l'utiliser? Parce que quand on regarde, on observe la chaîne d'accès aux soins, il y a à la fois les agents qui sont là, les spécialistes, les médecins, les infirmiers, mais on se rend compte aussi qu'il y a le matériel technique. Est-ce que tout cela, il y a aussi même les infrastructures, les bâtiments, tout cela. Est-ce que dans ce guide d'action-là, il y aura des actions spécifiques pour tous ces éléments qui composent la chaîne de la santé?
Il faut dire qu'au niveau de ce guide, il y a plusieurs points d'entrée. Et au niveau des points d'entrée, il y en a au niveau de la gouvernance, au niveau des infrastructures, au niveau des ressources humaines, au niveau de la formation, et j'en passe. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de visiter chaque élément et de pouvoir faire des propositions idoines, de sorte que chaque élément en tienne compte, chaque secteur en tienne compte. Aujourd'hui, il y a lieu de voir, par exemple, au niveau des formations de nos agents de santé et de leur parler véritablement à travers les curricula de formation du cas handicap pour qu'ils puissent savoir et déterminer les handicaps. Et face à ces situations-là, savoir comment une personne qui se présente à ses agents avec de telles réalités, comment est-ce qu'on les prend en charge. Au niveau infrastructure, il est question d'en tenir compte désormais dans notre dispositif et aussi de nous mettre à niveau. Nous prenons une personne, une femme, par exemple, atteinte de nanisme qui part pour un accouchement. Nous avons notre dispositif ordinaire. Il faudrait qu'on trouve un palliatif par rapport à cette personne-là pour qu'elle puisse être prise en charge comme il convient. Et donc, c'est tous ces mécanismes-là qui, à chaque niveau, seront étudiés avec des propositions concrètes. Et c'est ce que, ici, les différentes parties prenantes, dont les personnes handicapées, parce que au cours de cet atelier, dans cette plateforme pour l'inclusion du handicap dans le système de santé, tous ceux-là sont représentés. Nous avons la partie institutionnelle avec le ministère de la Santé et plusieurs démembrements du ministère de la Santé. Nous avons d'autres ministères techniques, tels que le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Nous avons le ministère de l'Éducation nationale, pour ne citer que cela. Mais nous avons aussi les associations de personnes handicapées, les organisations de personnes handicapées et plusieurs fêtières tels que la CAPSI, la COPSI, la FACI et les associations de femmes handicapées, tout ça qui sont représentées. Nous avons les professionnels qui sont représentés. Quand on parle de professionnels, nous avons l'association des orthoprothésistes, l'association des kinés, l'association des médecins PR et j'en passe. Et nous avons ceux qui se planchent sur des cas particuliers tels que ce que nos programmes font. Donc nous avons le programme de la santé oculaire qui est présent, le programme de santé mentale qui est présent, le programme de maladies métaboliques et de maladies non transmissibles qui est présent, le programme des maladies tropicales négligées qui est présent. Et tout ça, c'est ce que nous mettons en œuvre et que nous conduisons. Et nous tenons compte de tout ce qui va sortir. Et les recommandations seraient que tout ce que nous allons mettre en place désormais comme politique, comme plan stratégique, nous allons tenir compte de la question du handicap dans ces différents documents, dans ces différentes politiques. Et en application sur le terrain, nous allons aussi faire le suivi.
Amis auditeurs, vous suivez l'émission là, à Grande Interview, et dans le cadre donc de la Grande Interview, nous recevons Monsieur Emmanuel Etani, il est le conseiller technique du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, avec qui nous parlons bien entendu de la nouvelle politique sanitaire de la Côte d'Ivoire, avec en pointe l'inclusion des personnes handicapées dans l'accès aux services de santé. Alors, monsieur le conseiller technique et point focal donc de la plateforme des personnes qui interviennent donc dans la politique d'inclusion des personnes handicapées en matière de santé, lorsque vous avez décliné tout ça, on se rend compte que ça fait beaucoup. Est-ce que réellement ça ne met pas en cause tout ce qui a été fait depuis lors? Et ensuite, la crainte pour nous, est-ce qu'on a suffisamment les ressources pour apporter des réponses à toutes ces préoccupations? Vous avez dit au niveau donc des compétences des personnes, des animateurs donc de l'appareil de santé, au niveau des infrastructures, au niveau des équipements, au niveau même des populations en termes de psychologie, de perception des personnes handicapées. Ça fait beaucoup au regard donc des différentes priorités de l'État. Est-ce que réellement, c'est pas un peu trop grand cet objectif-là? Pourquoi vous n'allez pas à minima pour évoluer que de partir de façon, j'allais dire, objectif trop large?
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle conduit la politique sanitaire du gouvernement. Et l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts énormes en matière de santé pour sa population. Nous sommes un pays à revenu intermédiaire et il y a aussi un appui qui est forcément attendu des partenaires techniques et financiers. Et c'est ce mécanisme et cette combinaison, cette conjugaison des différents efforts qui va nous amener à pouvoir atteindre nos objectifs. L'objectif, c'est d'avoir un système de santé résilient. Et nous pouvons y arriver avec les efforts des uns et des autres. Le gouvernement fait l'effort de mettre à niveau toutes les structures sanitaires. Et aujourd'hui, la politique serait d'arriver à un centre de santé à moins de 5 km de chaque habitant. L'État y travaille à atteindre cet objectif. L'État travaille à former des agents de santé pour que nous puissions respecter les normes, ce qui amène l'État à former beaucoup d'agents infirmiers, des agents sages-femmes et maïticiens, des techniciens supérieurs de santé, différentes options, mais aussi au niveau de nos facultés de médecine, où nous formons aussi énormément de médecins, de pharmaciens et de stomatologues. Et donc, tous ces efforts-là, c'est une combinaison générale et totale qui se met en place afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Il y a la politique sanitaire aussi qui se déploie sur le terrain. Aujourd'hui, le ministre a fait mettre en place les PRESS, qui sont les pôles régionaux d'excellence en santé, pour que chaque habitant à moins de 150 km puisse avoir tout le paquet de soins nécessaires. Il y a 10 PRESS qui ont été créés dans le pays. Et donc, c'est tout ce travail-là qui se met en forme. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a un processus qui est déjà là, qui continue de se bonifier. En tenant compte du cas du handicap, il y a à prendre en compte les spécificités qui concernent cette population. Et donc, c'est un travail colossal qui demande l'implication de tous, l'apport de tous pour nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs. Ces ateliers et ces réflexions qui sont menées aujourd'hui, le ministère est accompagné par l'Organisation mondiale de la santé et par l'ONG internationale SAGE-SAVER. Il faut aussi que d'autres parties prenantes, d'autres partenaires au développement puissent nous accompagner afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Et c'est ce que ce travail-là va nous permettre de dégager comme recommandations, comme éléments qui vont nous permettre à terme de pouvoir arriver à nos objectifs.
Alors, quelles sont les prochaines étapes en ce qui concerne donc la plateforme, toutes ces compétences qui sont donc réunies pour réfléchir et proposer des recommandations au ministère, bien entendu, de la Santé, de la couverture maladie universelle, pour adoption ou pour validation. Vous avez réfléchi, vous avez été à Bassam, vous avez organisé des ateliers à Abidjan et à Bassam. Vous continuez, mais les prochaines étapes de vos réflexions, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous êtes où d'abord et qu'est-ce que vous allez faire?
Les prochaines étapes, c'est de finaliser les différents documents que nous mettons en place. D'abord, l'état situationnel. Il faut finaliser entièrement le rapport. Ensuite, le plan d'action. Et la prochaine étape qui va se présenter, c'est de réfléchir et d'arriver à une budgétisation de ce plan d'action. Et nous allons finir en présentant tous ces documents à M. le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, qui en tant que premier responsable de la santé en Côte d'Ivoire, va donner les orientations et les actions à mener de sorte que nous puissions atteindre notre objectif.
Alors, quels sont vos rapports avec le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales dans le cadre de ce projet? Parce que, bien entendu, les personnes handicapées sont très souvent logées dans ce département ministériel, mais on voit que dans le cadre de ce programme-là, c'est vous qui avez le lead.
Il est question de santé. Et quand nous parlons de santé, le lead ne peut revenir qu'au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui pilote la partie offre de soins du gouvernement. Mais il y a une belle collaboration entre tous les ministères. Et quand je citais tantôt les parties prenantes, je vous ai dit que le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale occupe une place de choix et participe à la mise en place de tout ce mécanisme que nous suivons aujourd'hui. Partie prenante, état situationnel, plan d'action et plan aussi budgétisé. Le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale participe à toutes ces étapes-là. Nous avons, au-delà du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, d'autres ministères tels que le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Donc, toutes ces parties institutionnelles sont représentées, participent. Parce que quand on parle de santé, il est question de la santé de toute la population et de toutes les composantes de notre population.
Monsieur le conseiller technique Emmanuel Tani, point focal donc de ce groupe de travail, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ou qui pensent qu'on en fait un peu trop pour les personnes handicapées, que ce n'est pas la seule catégorie de la population qui a des soucis ou des problèmes? Qu'est-ce que vous répondez?
Je dirais qu'on n'en fait pas trop.
Ils ne demandent pas trop non plus?
Chacun demande en fonction de ses besoins. Et l'État traite ses enfants en fonction de leurs besoins. Aujourd'hui, il est question de permettre à toute personne handicapée de recevoir les soins qui lui sont nécessaires. Mais on ne s'arrête pas qu'aux personnes handicapées. L'État travaille pour tous ses enfants. Nous avons des élèves, leurs besoins de santé sont assurés. Nous avons les fonctionnaires, les agents salariés, les planteurs, tout le monde, on en tient compte. Parce que chacun a un besoin spécifique et le besoin spécifique à l'hôpital ou dans une structure de santé, il faut qu'on puisse trouver les solutions. Donc on n'en fait pas trop. Ce que nous recherchons, c'est d'atteindre un niveau de résilience totale.
Ce qui veut dire?
Ce qui veut dire que tous les enfants de ce pays qui ont des problèmes de santé, une fois à l'hôpital, trouvent des solutions. Et même aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la promotion de la santé. Et ce qui permet, par exemple, que nous descendons jusqu'en milieu communautaire avec les agents de santé communautaire pour pouvoir faire comprendre à tous les parents, à tous les niveaux, quels sont les problèmes qui se posent, Qu'est-ce que nous devons avoir comme comportement pour pouvoir être toujours en bonne santé et être dans un état de bien-être total?
Alors, les efforts de l'État, du gouvernement, sont reconnus dans ce rapport de l'OMS en ce qui concerne donc la prise en charge et l'accompagnement en matière de santé des populations ivoiriennes dans l'ensemble. Mais le fait que les populations, les personnes handicapées appartiennent à l'ensemble, au groupe des personnes vivant en Côte d'Ivoire, population de Côte d'Ivoire, est-ce que les réponses que vous apportez de façon générale aux populations de Côte d'Ivoire, est-ce que les personnes handicapées ne trouvent pas réponse au point où vous êtes obligé aujourd'hui de faire des réponses spécifiques aux personnes handicapées?
On pourrait dire que les personnes handicapées ont un besoin un peu plus spécifique. Parce que quand je vous ai pris l'exemple, par exemple, d'une dame qui serait atteinte de nanisme, qui pâtirait à l'accouchement, voyez-vous que si les installations ne sont pas adaptées à sa situation, il y a problème pour cette frange de la population. Alors que personne ne doit être marginalisé. Donc, c'est en cette situation-là que nous réfléchissons à tous ces cas pour que aujourd'hui, quel que soit ce que nous sommes et quel que soit ce que nous présentons, nous puissions avoir satisfaction dans nos structures sanitaires. Et Monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, accorde une importance capitale à ce sujet. C'est pourquoi, lorsque le rapport mondial de l'OMS sur l'équité en santé des personnes handicapées lui est parvenu, il n'a pas dormi sur ses lauriers. Automatiquement, il a essayé, avec l'apport de l'OMS et de SciSaver, de mettre tous les dispositifs en place de sorte que cette question-là puisse trouver solution. Et il suit ses activités régulièrement.
Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Tani. Je rappelle donc que vous êtes conseiller technique du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Et avec vous, nous avons parlé de la nouvelle politique sanitaire de la Côte d'Ivoire avec en point de mire l'inclusion des personnes handicapées dans l'accès aux services de santé. Mais avant de nous séparer, nous allons vous permettre de dire un mot à ces personnes de la population qui ne comprennent pas toujours pourquoi il faut soutenir, il faut aider et accompagner les personnes handicapées et nous rappeler en quelques mots également l'objectif de cette nouvelle politique sanitaire d'inclusion des personnes handicapées dans le processus d'accès aux soins.
En décembre 2022, l'Organisation mondiale de la santé a fait sortir ce rapport qui parle de l'équité en santé des personnes handicapées. Bien avant, le ministère de la Santé déployait l'offre de soins à l'adresse de toute la population ivoirienne. Nous avons par exemple le cas de la réadaptation où une plateforme a été mise en place avec toutes les parties prenantes pour travailler sur la question avec une évaluation de la situation et un plan de développement 2022-2025 qui a été élaboré et qui se met en place aujourd'hui, qui est mise en œuvre aujourd'hui. Et aujourd'hui, la question de l'inclusion est un pas de plus. Et donc, l'occasion a été saisie par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour appeler tous ceux qui peuvent parler de la question. D'où la mise en place de la plateforme des parties prenantes. Réfléchir sur la question. Donc, fait l'état des lieux. L'état des lieux a été fait dans nos structures sanitaires pour voir nos forces et nos faiblesses. En tenant compte de l'environnement externe, voir ce qu'il y a comme opportunité et les menaces. Et à partir de ces éléments-là, des recommandations sont sorties. Nous prenons ces recommandations et un plan d'action est élaboré avec l'appui de l'OMS et de SciSaver. Avec cette planification, nous réfléchissons à comment trouver les solutions aux différentes difficultés connues. Et le ministre suit cette question de près. De sorte que demain, la Côte d'Ivoire puisse se réjouir en disant « Chacun de mes enfants, chaque personne vivant en Côte d'Ivoire, quand elle a des problèmes de santé, trouve solution. » L'objectif, c'est d'atteindre cette résilience.
C'est la fin de cette interview. Je recevais M. Emmanuel Tani, conseiller technique du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture de maladies universelles est point focal des acteurs pour l'inclusion des personnes handicapées dans le plan de stratégie nationale. Emmanuel Tani nous a expliqué l'objectif du gouvernement via la nouvelle stratégie d'accès des personnes handicapées dans les centres de santé. La grande interview, présentation Ben Diakité, réalisation Antoine Kouassi. Au revoir et à très très bientôt.
Vous venez de suivre la grande interview.